qu'on avait dans le petit livre, qu'on n'a jamais pris à l'Assemblée, mais qui m'est venu, j'avais juste là, à cœur de chanter pour vous ce matin, qu'une prière à Dieu. Chantez dans vos cœurs avec moi. Père, nous venons te chercher, Dieu de vie. Voir ta gloire, nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Nous venons nous humilier, Père. Nous voulons t'aimer. Des cœurs adoucis, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, nous venons nous humilier, nous venons nous humilier. Donc, la semaine passée, on a eu la visite, la grande visite de M. Jerry Kramer, qui nous a parlé de deux P absolument nécessaires, le pardon et la paix. Je trouve un message important, si vous ne l'avez pas entendu, si vous n'étiez pas présent, ça vaut la peine de prendre une heure ou une heure et dix, je pense même, et d'aller l'écouter cette semaine. Juste pour rappeler quelques principes, lui, il a mentionné que, si on y va, Dieu a parlé des fautes commises envers nous autres. Quand quelqu'un pêche envers nous, comment qu'on doit agir ou réagir? Qu'est-ce qui devrait se passer dans nos cœurs face à ça? Pas juste dans nos pensées, mais au fond de nos tripes, dans nos cœurs. Il nous a rappelé que le pardon de Dieu, en quelque sorte, dépend de notre pardon aux autres. Et l'avertissement sévère que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes vos fautes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Il nous a encouragés à, je l'ai écrit, je vais le prendre là, juste pour être sûr de le dire comme du monde, et pardonner correctement et pardonner entièrement. Qu'est-ce que c'était ça? Ben, c'était de renoncer à toute attente ou tout espoir que la personne va un jour se rendre compte à quel point qu'il était blessé. C'est de renoncer à l'attente et l'espoir que la personne aura un jour à payer pour son offense. C'est de piler sur son orgueil, renoncer à toute pensée ou acte de vengeance et de surmonter la douleur émotionnelle infligée à travers l'offense. J'ai quelque chose écrit ici. Pardonner correctement et entièrement. Mais moi, ce matin, je vais parler un peu de l'envers de cette médaille-là. Vous voyez, Jerry a parlé des fautes commises envers nous. Et dans le fond, la Bible nous ordonne de pardonner. Il ne permet pas de conditions. Il ne permet pas d'excuses. Il ne permet pas à ce qu'on passe par l'autre côté de ça. Bien, moi, je vais vous parler de l'autre côté de ça, qui est justement des fautes commises par nous. C'est une faute, ça va dans deux sens. Hein? S'il y a une faute qui a été commise envers nous, des fois, on commet aussi des fautes envers l'autre. Et comme l'autre devrait, dans le meilleur des mondes, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pardonner entièrement, correctement. Puis moi, j'ai une responsabilité moi-même face à tout ça, face à mes péchés. Et c'est la les deux C, absolument nécessaires. S'il y en a deux P, absolument nécessaires la semaine passée, ben, j'ai volé un peu son titre. Deux C, absolument nécessaires. On a vu tantôt le grand titre, la confession et la contrition. Donc, ça va être mon sujet ce matin, ce que je vais traiter avec vous. L'essentiel du message, ce que je veux que vous captez de ça. Notre état de pécheur et les péchés qui en découlent devraient nous affliger à un tel point qu'ils nous poussent à confesser avec humilité à Dieu et aux hommes. Notre état de pécheur, le vieil homme attaché à nous, et les péchés qui en découlent devraient nous affliger à un tel point qu'ils nous poussent à les confesser avec humilité à Dieu et aux hommes. Jerry a parlé d'aller au fond des tripes pour le pardon. Ben pour nous, ce n'est pas d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de nos tripes, c'est de s'assurer que les bons sentiments se trouvent au fond de nos tripes. Face à ce qu'on fait l'un à l'autre, face à les torts qu'on aurait pu faire, les blessures qu'on peut donner. On doit juger soi-même pour ne pas être jugé. On doit rendre compte jusqu'à quel point on a blessé l'autre dans nos actes, dans nos gestes, dans nos pensées, dans nos motifs. Avant de commencer, on va faire un peu comme Jerry a fait aussi la semaine passée. On va prendre quelques moments de silence inconfortable pour prier Dieu. Je vous inviterai dans vos cœurs de parler lui-même. Toi, Seigneur, tu sondes nos cœurs. Tu connais-tu tout? Tu vois tout? Tu n'agrées pas le sacrifice de péché si c'est l'offrande d'un cœur orgueilleux. Tu es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu es juste, même si tu justifies celui qui croit. Nous, Seigneur, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes sans vérité, sans justice au fond du cœur. Nous avons des cœurs impurs, des esprits qui sont disposés au mal. Et si souvent, Seigneur, nous avons le cou raide. Donc ce matin, Seigneur, enseigne-nous à travers ta parole. Ouvre nos yeux pour qu'on comprenne ce qui t'attire chez l'homme. Qu'on ouvre nos cœurs pour recevoir. Fais-nous, Seigneur, sentir notre misère avec deuil et larmes. Et Seigneur, qu'on s'humilie devant toi. Amen. Voici le plan de ce matin, où est-ce que je devais m'en aller. On va voir premièrement une histoire de la Bible, David, Bathsheba et Nathan. Quelques-uns vont peut-être la connaître, mais on va la raconter. On va ensuite voir le psaume 51, qui est un psaume que David a écrit suite à cette situation-là, suite à la visite de Nathan. On va parler des mots brisés et contrits qui se trouvent dans ce psaume-là. Ensuite, on va voir Jésus, Dieu et l'Évangile. J'ai oublié ma Bible en bas, excusez-moi. On va voir Jésus, Dieu et l'Évangile. Ensuite, d'autres versets qui parlent des mêmes choses. Je vais parler un peu de mon expérience. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire face à l'Église, qu'est-ce qu'on va faire entre nous, dans nos propres choses. Donc, j'allais demander si vous êtes d'accord, mais dans le fond, d'accord ou pas d'accord. Je ferme ma tête. Je suis professeur. Hein? Je suis habitué de gérer ma classe. Et de donner des devoirs. David, Bathsheba et Nathan. David était le roi d'Israël. Dieu l'avait placé comme chef de son peuple. Puis on n'est pas à ce que ça dit que les rois allaient à la guerre. Le roi David n'a pas allé à la guerre. Pourquoi? Je ne sais pas. Il était-tu oisif, il est blessé, il y avait d'autres choses à gérer, je ne sais pas. Mais lui, il n'est pas parti. Et un soir, il marchait sur le toit de sa maison, de son palais royal. Ce n'était pas un toit comme ça, bien sûr. C'est tous des trois plats dans ce temps-là. Il marchait là. C'était une place que la vie, là, dans ce temps-là, se passait souvent sur le toit. Puis on regardait en bas, il y avait une femme. Mais toute une femme. Bathsheba. Malheureusement, quand il s'est informé, c'était la femme d'un autre. Mais David est un homme roi, habitué d'avoir ce qu'il voulait, habitué d'ordonner et de recevoir. Ben, il a appelé. C'est envoyer des gens à la chercher. Bathsheba a monté en obéissance à son roi. Puis David, ben, il a pris. Il a des relations avec elle. Puis il l'a renvoyé chez elle. Quelques jours plus tard, il reçoit un petit message de la part de Bathsheba qui dit excuse-moi, coucou, tu te rappelles de moi? Je suis enceinte. Problème, ça. Hein? Le problème, c'est que son mari n'était pas à la maison pendant tout ce temps-là. Il était à la guerre pour David. Et là, David, qu'est-ce qu'il fait? Bien, lui, dans son. Tu sais, on dit que le cœur de l'humain est ingénieux au mal. Hein? C'est écrit quelque part dans la Bible. Mais il est allé chercher le mari de Bathsheba à la guerre pour demander des nouvelles. Pourquoi lui? Pourquoi un autre? Bien, lui, on ne sait pourquoi. Lui, il ne savait sûrement pas. Donc, lui, il revient, il donne des nouvelles à David, puis David, bien, OK, c'est bon, tu peux aller dans ta maison, là, passer une belle soirée avec ta femme, puis moi, je vais être libre, moi, je n'aurai pas de problème. Le problème, c'est que Uri, c'est un homme juste, hein, que lui, il dit, mes compagnons de guerre, les autres hommes d'Israël sont en campagne, moi, j'irai à la maison pendant qu'eux, ils souffrent à bataille, et couchaient à la porte de la maison de David. Jamais été en maison. Même en public, tout le monde voyait qu'il n'avait pas été chez lui. David, ingénieux au mal, l'invite pour un banquet le soir, le prochain soir. Il dit, je vais le saouler, puis il va aller chez lui. Donc, il donne la nourriture en masse, il donne la boisson en masse, puis il dit, ah oui, chez vous. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il couche à la porte. Il parlait de David encore. David, là, il dit, là, je suis dans le trouble. Et son cœur, qui est ingénieux au mal, écrit une petite lettre à son général qui dit, envoie Uri avec un groupe là où la bataille est le plus fort. Puis dis à tous les autres de se retirer. Laisse-lui seul dans sa place-là. Et ce qui devait advenir est venu. Et Uri fut tué. Donc David est allé prendre, laisser Bathsheba quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, pour faire son deuil, et puis il a pris pour femme. Le tout pour cacher son péché. Et là, un jour, le texte ne dit pas, mais c'était moins que 9 mois plus tard, parce que Bathsheba est encore enceinte, le prophète Nathan se pointe. Même, c'est à cause de lui que mon gars, il s'appelle Nathan. Je pense qu'il n'est pas ici. Oh, il est là. Ouais, il y a un VeggieTale avec l'histoire, puis quand j'ai vu le petit chien, les affaires bien cute, puis le courage de Nathan, imagine. Le prophète Nathan, il arrive, puis il raconte une histoire. La sagesse de Nathan, il raconte une histoire d'une homme. Place de prendre David là, par les deux oreilles, puis de shaker, de dire, tu es coupable. Puis, il raconte l'histoire d'un homme riche qui avait plein de brebis, plein de choses, puis un homme pauvre qui n'avait qu'une petite brebis, qui gardait chez lui. C'était comme une fille pour lui. Puis l'homme riche reçoit un visiteur, puis il doit le faire manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le petit brebis, le petit homme pauvre, même s'il y en avait des milliers. Il l'a tué, puis il l'a fait cuire, puis il a servi son voisin avec ça. Et David, ben, comme un homme de Dieu devrait l'être, était enragé. Enragé par la situation. Il dit, il mérite la mort. Il dit, ce qu'on va faire, il va donner 7 fois. Je pense que la loi disait 4 fois ou 3 fois qu'il fallait restituer. Il va, par sa cruauté, il va restituer 7 fois le petit brebis pour l'homme. Il a dit, c'est qui il veut savoir? Et Nathan a levé le doigt et a dit, je suis intéressé d'entendre le ton, mais il dit, tu es cet homme-là. Tout ça, c'est pour m'amener, vous amener, nous amener ensemble à voir la réaction de David. Moi, je sais comment je réagis souvent quand on me dit, tu es cet homme-là. Là, David, il entend ce que Nathan explique. Nathan qui accuse de tout ce qui est grave. Et David, l'homme près le cœur de Dieu, répond une phrase. J'ai péché contre l'Éternel. Il n'obstine pas, il ne donne pas d'excuses, il ne donne pas de raison. Il ne donne pas rien qui pourrait lui enlever la blâme. J'ai péché contre l'Éternel. Même, il obstine pas sur la conséquence que Nathan avait annoncée. J'ai péché contre l'Éternel. Et après, il a écrit une psaume. Vous pouvez vous tourner avec moi en psaume 51. David a écrit un psaume après. C'est intéressant de voir comment que David il ouvre son cœur dans un psaume. Je ne sais pas s'il l'a publié tout de suite ou si c'est au fil des années que ça a été ajouté au livre de chants des Israélites, mais là, ça se trouve encore, je ne sais pas trop combien de milliers d'années plus tard, nous lisons la confession publique de David. Il ouvre son cœur, pas juste à son monde de lui, mais jusqu'à maintenant, qu'on puisse expérimenter, voir en lui son confession de son péché et surtout la contrition qu'il y avait en dedans de lui. On va le lire, puis je vais passer quelques commentaires à quelques places. Après ça, on va aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut dire, parce que je trouve, de toute façon, le texte dit ce qu'il dit. Alors, j'ai ici une genre de outline, là. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voit? Versets 1 et 2, introduction et contexte, on voit au chef de cœur, psaume de David. Verset 2 dit, « Lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Donc, on identifie ce psaume-là est écrit à ce moment-là et exprime ses pensées et ses sentiments dans ce contexte-là. Et il dit, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Quelle dépendance, ce Dieu. Pas de façon pour lui d'enlever ce qu'il a fait. Pas de façon pour lui de compenser pour les péchés qu'il a fait. Seulement si Dieu est compatissant envers lui puis lui pardonne. Et il poursuit. Versets 5 et 6. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est intéressant qu'on peut retourner en 2 Samuel et lire, c'était quoi le jugement, la sentence. On peut le voir. Puis David dit, c'était juste. On voit la confession de ses actes. David regarde franchement ce qu'il a fait, comment il agit, et il avoue devant l'Éternel et devant son peuple. Versets 7 et 8, la confession de la dureté de son cœur. Des fois, on peut lire ça, puis on peut peut-être manquer si on ne garde pas le contexte. Hein? « Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Pas pour dire que sa mère était pécheresse, pour dire que lui était pécheur dès sa naissance. « Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. » Remarquez le « mais ». David dit « j'ai pas de vérité dans le fond de mon cœur. » Et même il demande à Dieu, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. David avoue aussi franchement d'où vient ce péché-là. Ce n'était pas la faute de la femme qui prenait son bain l'autre bord. Ce n'était pas la faute de ces hommes qui ne l'ont pas amené à guerre avec lui. C'était son cœur méchant, tortueux par-dessus tout, qui lui a amené à pécher contre son Dieu. Il l'avoue, il sait. On continue. Purifie-moi avec l'hyssope. Versets 9 à 12, c'est encore la dépendance sur Dieu, les demandes à Dieu de lui sauver. Purifie-moi avec l'hyssope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité, la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ensuite, la délivrance amène l'adoration. On voit que David il dit, « Rends-moi la joie de mon salut, qu'un esprit bonne volonté me soutienne. Pardon. J'enseignerai tes voies à ceux qui se revoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. » C'est ça qu'on fait à tous les dimanches matins quand on vient au repas du Seigneur. On vient, puis on dit à Dieu, « Tu as m'a délivré de sang versé. Et ma langue acclame ta justice et ta louange. Et on arrive au verset 18. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autre moi, j'en donnerais. Tu n'aurais pas d'holocauste. C'est étrange. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit de faire ça. On a des chapitres et des chapitres et des chapitres dans Lévitique sur comment faire des sacrifices et des holocaustes. Pourquoi David dit que tu n'agrées pas ces choses-là? Mais c'est assez simple. Verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. C'est pas le sacrifice qui a une valeur. C'est le sacrifice qui vient d'un cœur, un esprit brisé. Pas brisé parce que les autres ont été méchants envers nous. Pas brisé parce qu'on a de l'opposition, puis pauvre moi. Non, non. Parce qu'on se regarde, on se voit pécheur, on regrette le mal qu'on a fait à Dieu et à son nom, et à son peuple et à sa création. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendrais plaisir aux sacrifices de justice. Aux holocaustes et aux victimes, tu t'entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. On remarque que pour arriver à avoir un sacrifice agréable à Dieu, ça prend une profonde contrition. J'ai quelques citations qui parlent justement de briser et contrit. Un qui a dit, si je pardonnerai la traduction, c'est très libre, mais pour trouver la miséricorde, Dieu, tu insistes à ce que le cœur et l'âme ressentent profondément la transgression et qu'ils se tournent vers toi avec une pleine contrition, plein de remords. Au sujet des mots brisés et contrits, il dit, ces mots sont très expressifs. Brisé signifie brisé en écharde ou en éclat. Contrit est utilisé pour parler d'aplatir du métal en le battant avec un marteau jusqu'à ce qu'il soit plat. Voici les sacrifices dont Dieu ne dédaigne pas. Un esprit brisé, éclaté en morceaux. Un cœur éclaté, battu, écrasé pour son péché. C'est seulement après qu'on peut voir la restauration qu'on trouve en versets 20 et 21. Jerry a parlé la semaine passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, le faux pardon. Quelqu'un qui se rappelle, c'était quoi le faux pardon? Du coup, en haut, hein, c'est dans la tête, mais il a dit d'autres choses. Parlons des Québécois. Hein? Oh, c'est pas grave. Oublie ça. Laisse faire, c'est oublié. Ça, un faux pardon. Mais comme il peut avoir un faux pardon, que c'est pas grave, ça fait rien, je fais semblant que ça s'est pas passé, il y a une fausse contrition, une fausse confession aussi. Comme si ce n'était pas grave, comme si ce n'était pas grand-chose. Comme si on devrait tout de suite passer à d'autres choses. Comme il peut avoir un pardon du coup en haut, il peut avoir une confession du coup en haut. Comme on a besoin d'un pardon qui vient du fond des tripes, on a besoin d'une confession qui vient aussi du fond des tripes. Nos tripes, il faut qu'ils sympathisent avec les tripes de ceux et celles à qui on a fait mal. On le voit David. On le voit David. Je veux juste arrêter tout de suite pour vous montrer trois choses que je me suis rendu compte dans mes études. Pour m'assurer que ça ne reste pas juste pour nous autres, c'est vraiment humain-centrique. La gloire de Dieu et l'Évangile et Jésus ont tous rapport avec notre confession. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a l'air que le mot « confesser » dans l'Ancien Testament est le même mot qui dit « donne gloire ». On dit « donne gloire à Dieu ». Confesse à Dieu tes péchés, là, ça donne, rend gloire à Dieu. Comment ça fonctionne, ça? J'ai réfléchi en 5 secondes, ça n'a pas été long, j'ai trouvé. Sûrement, il y en a d'autres qui font le lien. Dieu, il est Dieu, hein? C'est un peu lui qui a raison sur la façon que les choses fonctionnent. C'est un peu lui qui détermine, c'est un peu lui qui a l'œil juste là, sur tout ce qui se passe. Quand nous confessons nos péchés, il nous dit, Dieu, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Je l'ai fait et c'est vrai. Et ça brise du monde et c'est une rébellion envers toi et je dois le regretter. C'est vrai. On dit au monde entier et on rend gloire à Dieu pour ce que lui est. Comment que lui est parfait, pas comme nous. Comment que lui-même, il pardonne, pas comme nous des fois. Mais on rend gloire à Dieu par la confession. L'évangile de la confession, encore, quel lien facile à faire. On peut-tu rentrer par la porte de la croix de Jésus sans avoir passé par le chemin épineux de la contrition et la confession? On peut-tu accepter le sacrifice de Jésus pour nos péchés sans avoir cru profondément dans nos cœurs qu'on a péché envers Dieu, qu'on mérite son jugement envers nous? On peut-tu rentrer par cette porte-là sans prendre le chemin? Les portes en arrière, on ne peut pas rentrer par là. Il y a une seule façon d'amener à Dieu, et c'est de reconnaître le fond de nos cœurs méchants, de regretter le mal qu'on a pu faire à Dieu en étant rebelle à lui dans son monde, puis de lui supplier de nous pardonner. La confession, c'est le seul. Une vraie confession pleine de contrition, c'est la seule façon de se rendre. Et Jésus, comment que lui est le héros dans notre confession? C'est les péchés qu'on confesse, nous. Ésaïe 53, 5 dit, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Seule façon de s'approcher du sacrifice de Jésus, que ça s'applique à nous, c'est d'admettre, de se dire d'accord avec Dieu, rendre gloire à Dieu. Sans ça, là, en restant dehors. Je vous supplie, avant d'aller à la prochaine section, je l'ai écrit, je vais le lire encore pour le Dieu comme du monde. Notre état de pécheur et les péchés qui en découlent devraient nous affliger à un tel point qu'il nous presse, nous pousse à les confesser avec humilité à Dieu et aux hommes. Quelques autres versets qui parlent de ça, justement. Et vous allez peut-être être surpris. Je vais faire un petit topo comme Jerry a fait la semaine passée. Je vais voir plein de différents versets. Je ne passerai pas beaucoup de temps à les exposer ou les expliquer. Je pense, de toute façon, c'est clair. Ce que je voudrais que vous remarquiez dans la première série qu'on va montrer, c'est comment le cœur brisé, l'esprit brisé, le cœur brisé et contrit se trouve face à notre péché. OK? Et comment la confession, on appelle à la confession. Souvent, on lit les versets qui parlent d'être brisé, on pense à des gens qui sont écrasés par l'épreuve. On ne pourra pas nous mettre dans une situation d'épreuve en nous regardant honnêtement dans nos relations l'une avec l'autre, nos relations avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos parents, avec nos professeurs, le monde qui travaille avec nous. On ne pourra pas se mettre en état de détresse. On ne pourra pas chercher à s'humilier à Dieu pour voir ce cœur brisé et contrit. Donc, remarquez ici ce que Dieu apprécie chez les hommes, ce qui attire Dieu vers les hommes. Avec quelle sorte de personne Dieu promet de donner sa présence? On pourrait aussi peut-être tourner quelques-uns au négatif, de dire, si on ne l'est pas, qu'est-ce que ça semble dire? On va aller. D'autres textes. Je vous avertis, il y en a qui sont durs. Il y en a dans le contexte, si vous voulez aller voir chez vous. Là, c'est très, j'ai enlevé des bouts parce que il y a des bouts que j'ai... En tout cas, vous verrez. 2 rois 22-19, c'est le roi Josias qui trouve le livre de la loi dans le temple. Le temple qui avait été fermé et inutilisé pendant des années. Il trouve le livre de la loi, il l'amène à lui. et regarde la réponse. C'est la réponse de Dieu à Josias après sa contrition. Vous allez voir dedans. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, et parce que tu as déchiré tes vêtements. C'est un signe de deuil pour eux. La douleur émotionnelle là, qu'on déchire les vêtements, on s'assoit sur le cendre à terre. Et parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. J'ai entendu. On sent la contrition, on sent sa douleur face à ses péchés à lui, les péchés de son peuple. On poursuit. Ézéchiel 9, 4, 6. Très dur. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. C'est Dieu qui donne un ordre à un ange. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Passez après lui dans la ville et frappez. Mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. C'est les humiliés et les contrits, ceux qui soupirent et qui gémissent, qui ne supporteront pas le jugement de Dieu. Dans cette histoire ici, on a un publicain, pas un publicain, un pharisien, chef religieux du peuple. C'est un des hommes très religieux qui dit, remercie Dieu de ne pas être comme l'autre, de toutes les bonnes choses qu'il fait. Et là, on arrive à un péager. C'est un à distance. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappe la poitrine et il dit, « Oh, Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Et la promesse de Jésus, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Mais tout dans le contexte, pas dans le contexte d'un orgueil, mais dans le contexte des péchés qu'on a commis. On poursuit. Jacques 4, 6 et 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Veux-tu encore? Je parle des orgueilleux, William. Attends, on va aller. Ça parle des péchés plus loin. Soumettez-vous donc à Dieu. Purifiez vos mains, pécheurs. Et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez d'eux et pleurez. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. On poursuit. Psaume 32, 5, un autre psaume qui semble être écrit peut-être dans le même temps que le psaume 51. David dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. » Et il dit, « Qu'ainsi, tout fidèle te prie au ton convenable. » David, quand il a confessé ses péchés, ses transgressions devant l'Éternel, les pensées à nous. Puis il dit que tout homme fidèle à Dieu, tout croyant, tout homme qui craint Dieu, qui prie de la même façon, quand c'est convenable. Moi, je peux dire, pour moi, c'est convenable, vraiment souvent. Encore, 2 Chroniques 33, 12, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, un des pires rois qu'Israël a connu, Manassé. Il a été attaqué par les Assyriens, je crois, et amené en déportation. Mais lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Pas juste pour enlever les conséquences, mais il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui a adressé ses prières et l'Éternel exauça. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Proverbes 28, 13 et 14. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit ton cœur, tombe dans le malheur. Et combien de nos malheurs viennent de nos cœurs endurcis? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la promesse que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Toute une autre série qui parle encore. Remarquez ici, Corinthiens y parle le Très-Haut dont le demeure est éternel et dont le nom est saint. Qu'il est grand, sa demeure est éternelle. Je demeure dans les lieux saints, élevé dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. L'Éternel demeure avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. Isaïe 66, le ciel est mon trône, la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel sera mon lieu de repos? Voici ce qui je porterai mes regards sur le malheureux qui est l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Vous êtes blessé et brisé ce matin par toutes sortes de choses, je peux pas m'empêcher de le dire. Quand vous venez à Dieu, blessé, brisé, humilié, il est près de toi. Il entend ta prière. Mais qu'on s'humilie aussi, qu'on a un cœur brisé pour nos péchés, pour ce qu'on fait l'un à l'autre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés. Aussi ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils n'ont pas été rassasiés. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Tremblez, car il n'a pas mépris ni de dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Les peines du misérable sont en lien avec notre tremblement devant lui, devant l'Éternel. Là, je veux répondre à la question, je suis qui, moi, pour vous parler de ça? Jerry nous a parlé du pardon. Il vous a parlé de comment il avait besoin de pardonner. Il a parlé de sa lettre qui a écrit 18 pages avec des choses qu'il avait pardonné sa femme, qu'il fallait faire la même chose avec sa mère et d'autres. Et moi, je veux juste vous raconter. Je sais probablement pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez penser à une situation dans votre vie. Vous pouvez vous rappeler, si ce n'est pas le salut, là, sera là. Sûrement d'autres fois dans votre vie que vous êtes regardé dans le miroir et vous avez vu comment que Jérémie peut dire que le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Vous pouvez voir comment que on est ingénieux au mal. Et justement, mon salut était comme ça. J'avais 16 ans. J'avais grandi dans une église. Mes parents, ma mère m'avait enseigné l'école du dimanche. Je connaissais mes histoires de la Bible. J'aimais Dieu, au moins, c'est ce que je pensais. Mais une fois, j'ai entendu quelqu'un parler. Je ne me rappelle pas de quoi il a parlé. Mais je me rappelle, je me rendais compte que malgré toute ma connaissance, malgré toutes les opportunités que j'avais eues, ma vie n'était pas à Dieu. Elle était à moi, puis j'y prêtais des moments. Plus tard, j'étais à NBBI. Ça, c'est une histoire que quelques jeunes ont entendue. Il y avait des conférences que j'ai donné ma vie à Dieu constamment, constamment, constamment. Je voulais tout le temps arriver par un événement, arriver à quelque chose de nouveau, de meilleur. Mais je me rappelle une fois, j'étais assis. Depuis que tu étais là, j'étais assis peut-être là, dans le coin de M. Côté, Mme Côté. Et j'aurais voulu aller en avant une 18e fois. J'aurais voulu dire à Dieu pour la dernière fois, cette 18e fois-là, que j'étais pour vivre pour lui tout le temps. Mais je me rappelle, mon cœur brisé, mon esprit brisé, à dire, Dieu, tout ce que je peux t'offrir, c'est un autre échec. Tout ce que je peux te garantir, c'est que je vais manquer encore à ce que je veux faire. Je vais te déshonorer encore dans mes attitudes, dans mes actions. Je vais m'éloigner de toi. Donc, garde-moi, Seigneur. Toi, fais quelque chose. Je pense que c'était peut-être la première fois que j'avais profondément confessé à Dieu que je ne pouvais pas, moi, arriver à être juste. J'ai vécu il y a quelques années des difficultés à l'école. Il y en a peut-être qui le savent, là. Je suis enseignant au niveau secondaire 1 et 2. J'étais avec des groupes très difficiles, plein d'élèves très pénibles. Je vivais, écoute, j'étais à tous les jours, à toutes les périodes presque, il y avait des bouts, là, toutes les périodes, là, on m'envoyait promener, pas promener en sûr, c'est sûr, hein? On m'envoyait promener, on m'appelait de toutes sortes de noms, on m'a sacré après. Et je me rappelle une période, un vendredi après-midi, j'en avais eu 7 qu'il fallait que je sorte parce qu'il était tellement tannant dans mon cours. Pas 7 en même temps. Là. Je fais un, j'essaie de partir le cours. Un autre, j'essaie de partir le cours. Ça m'a pris, je pense, ça m'a pris 55 minutes avant de faire quoi que ce soit. J'étais rendu, moi, social comme je suis, j'avais appliqué au centre de données fiscales pour m'enfermer dans un cubicule là, avec un lecteur MP3 puis à faire de la paperasse. Tu sais comment que j'aime la paperasse, Stéphane. Je m'en allais là. Le Seigneur m'a changé de groupe. Il m'a permis de sortir de cette situation difficile-là. Et c'est là que j'étais déjà brisé, mais je ne savais pas pourquoi. Moi, je pensais que j'étais brisé parce que les autres avaient été méchants avec moi. Parce que les autres avaient été durs avec pauvre moi. Mais c'était dans les premiers mois avec les nouveaux groupes où ce n'était plus comme ça que je me suis rendu compte que j'avais ma part. Je suis chrétien, moi. Dieu m'a aimé puis m'ordonne d'aimer les autres. Et moi, je ne les aimais pas réellement. Je faisais des petites choses pour que ça ait l'air que je les aime. Je faisais des sorties avec eux, mais dans le fond, ça faisait plus mon affaire de faire ça que d'autres choses. Et je ne le montrais pas d'amour. Je n'avais pas de grâce envers eux. Le Seigneur m'a écrasé. Ces temps-là que j'ai vécu difficiles, ce n'était pas à cause d'eux. Plein de profs ont vécu la même chose puis n'ont pas eu les attitudes que j'ai eues. C'était mon cœur méchant. Et j'en ai d'autres. Je suis marié d'une femme, père de 3 enfants. Il y a eu des journées parce que je regardais dans le miroir et je ne croyais pas qui je voyais. Mais je me donnais souvent des excuses. Il est frustrant et qui est énervant. C'est ça qui arrête ça. Elle ne m'a pas obéi. Ce n'est pas de ma faute. Un jour, je me rappelle clairement dans mon esprit. Le Seigneur m'a dit, « Will, c'est pas la faute de personne d'autre. Tu as un problème de colère. Tu es abusif envers ta femme et tes enfants. Et c'est honteux. » Et j'ai dû aller voir ma femme et mes enfants le dire. Sans mentionner, sans dire, oui, c'est vrai que vous êtes, oui, c'est vrai. Non, 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 rien. Il ne restait plus rien là-dedans pour moi que moi. Et je n'ai pas pu, moi, sortir de ce cycle-là sans que j'avoue que c'était moi le problème. C'était mon cœur méchant à moi. Je l'ai avoué à ma femme, je l'ai avoué à mes enfants, je l'ai avoué à mon Dieu. J'ai crié, j'ai demandé pardon, j'ai demandé grâce de leur part, puis ils m'en ont fait. Encore, je prêche encore. J'ai encore à garder ces blessures. Je te dis, on passe par la porte du salut, là, par le chemin épineux de l'humiliation. J'ai des cicatrices encore, il faut que je les regarde de temps en temps pour me rappeler. Le Seigneur m'a donné une profonde contrition. Mes tripes ont fait mal pour ce que j'avais fait aux autres. Et je peux dire, pour tout ce qui se passe à l'Église dans ce temps-ci, mon cœur est brisé. Je me rappelle, j'ai dit à quelqu'un que la seule réaction appropriée, c'était pas la colère. Pas la colère envers personne. C'est la tristesse profonde que nous soyons rendus où ce qu'on a rendu. Donc, quand je parle en étant un jeune homme, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui a été brisé par Dieu. Puis je parle à une congrégation, je ne veux pas mettre un poids sur vous, mais rappelez-vous, y en a-tu quelqu'un qui a jamais été brisé par lui-même? Rappelez-vous. Le bien que ça fait d'avouer, de dire les choses comme qu'ils sont. La liberté qu'on a. la transformation que Dieu effectue dans nos cœurs une fois que ça se fait. Si tu ne l'as jamais fait pour être sauvé, viens. Viens à la croix de Jésus, avoue. N'aie pas peur d'avouer tes péchés parce que le sang de Jésus est là pour ça. Je n'oublierai jamais que je pense que Gaëtan a dit il y a quelques semaines, il ne faut pas nous priver du sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour chaque péché. Seule chose qui l'empêche de l'appliquer pour qu'on soit libéré, c'est qu'on la confesse. Je reviens à l'essentiel de mon message, je pense que je l'ai écrit ici. Notre état de pécheur et les péchés qui en découlent devraient nous infliger à un tel point que nous devons les confesser avec humilité à Dieu et aux hommes. Je vous encourage, méditez vos actions, vos pensées, vos désirs. Réfléchissez à ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, à qui tu l'as fait, dans quel contexte, quel moment. Méditez, priez. Que tu demandes à Dieu de t'aider à arriver à un profond regret pour le mal que tu as fait dans ta vie envers d'autres. Et une fois que tu le sens dans le fond de tes tripes, une fois que tu vas au fond du chaudron, tu t'es tout vidé, puis tu as gratté le fond pour enlever la crasse qui est là, que tu pensais que ça faisait partie du chaudron, mais qui est crassée, enlève-le. Va chercher jusqu'au fond. Avant, va pas confesser la moitié des choses. Va au fond. Cherche, recherche la misère. Le plus que tu vas profondément, le plus que le Seigneur va te libérer, le plus que tu vas trouver la joie de te l'avoir pardonné. Le plus que les relations vont être restaurées. Et une fois que tu as tout décrassé le fond de ça, confesse à Dieu. Confesse aux hommes. À vous. C'est justement ce que je souhaite pour le 14 octobre. Vous avez vu encore dans l'écho l'annonce. On ne veut pas vous fatiguer avec ça. On a décidé de le publier. Ce qu'on avait déjà entendu par le passé, qu'il y avait des gens, tu manques un dimanche, tu manques une annonce, puis jamais tu l'entends. On a décidé que ça, on le publierait pendant plusieurs semaines pour s'assurer que les gens qui viennent aux deux semaines ou aux trois semaines, ou peu importe, puissent avoir l'information. Cette réunion-là, elle a comme une date qu'on espère avancer, faire des avancées majeures. Mais ce n'est pas pour n'importe quoi, ça. Toi, tu as un problème avec lui? Tu as péché envers lui? Tu as péché envers lui? Vous envers vous? C'est pas au 14 qu'on va régler ça. Moi, j'espère que ça va se régler à la fin de la réunion aujourd'hui. J'espérais que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, touche au plus profond de vous. Puis que vous ressentez votre misère là, votre place. Et que tu ne peux pas t'empêcher à la fin de la réunion que de lever, aller voir, de regarder l'autre dans les yeux avec le profond regret et de toute connaissance de la peine que tu as pu faire et que tu le confesseras là. Faut pas attendre. Faut pas attendre le 14. Ce que j'aimerais voir le 14, c'est des frères et des sœurs qui viennent ensemble à dire, dans toute cette situation-là, l'un a péché envers moi. J'ai péché envers quelqu'un. J'ai été le voir telle date. J'ai confessé ces choses-là et on a restauré maintenant l'autre à côté qui dit oui. Et deux frères qui pleurent, deux sœurs qui pleurent. Que j'aimerais ça, déjà fait. 14, ce qu'on voudrait, c'est plus... Des fois, il y a des choses qu'on a fait qui ont fait du mal à plusieurs. Des fois, des discussions qu'on a eues, une, deux, trois, quatre, cinq, combien de fois, je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce qu'on s'est mis la discorde, qu'est-ce qu'on s'est mis la difficulté. C'est l'occasion de s'en repentir. Confesser sa part dans ce qui se passe. De confesser la division dans son cœur. J'espère aussi qu'après le 14, cette attitude-là va rester avec nous. Qu'on va continuer à se sonder, à laisser Dieu nous sonder puis nous révéler des choses pour que ça fasse partie de notre vie. Mais ce n'est pas le seul... application. Moi, je ne voudrais pas que vous pensiez que même si j'ai préparé tout ce message pour le 14, moi, le principal concerne, oui, c'est difficile à l'Église, on a des choses à se dire. Mais je pense qu'il y a plus de travail à faire, homme envers vos femmes, femme envers votre homme, parents envers vos enfants et enfants envers vos parents, frères envers sœurs. J'ai réfléchi à quelques péchés, je vais les nommer, je vais le dire comme que c'est. Je pense qu'il y a plein de contextes qu'on pourrait avoir à avouer nos torts. Vous m'excuserez si vous pensez que je me vois là-dedans, c'est vrai. Si je les ai pensés, c'est pas parce que je regardais les autres. Je pense à l'orgueil. Combien de fois qu'on agit en orgueilleux avec nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos familles? Combien de fois qu'on pense qu'on a raison? Combien de fois on insiste sur notre façon de faire, notre façon de voir? Et combien de fois l'autre se sent humilié, détruit, écrasé? Parce que nous le croyons meilleur, au-dessus. Pourtant, le Christ s'est humilié lui-même. Il considérait pas seulement ses propres intérêts, mais des intérêts aussi les intérêts des autres. Je pense à la crainte des hommes. À chaque fois que je ne parle pas du Seigneur parce que je crains comment que l'autre va agir, chaque fois que je dénonce pas le péché parce que j'ai peur de la réaction des gens en face de moi. Combien de torts j'ai fait à Dieu à rester silence quand je devais parler? Ou quand j'ai agi en suivant la gang? Et pourtant, Jésus a dit, il nous a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Craignez aussi celui qui nous pardonne. Vous, peut-être, c'est la colère et l'amertume. Comme moi, peut-être. Considérez. Tu es en colère souvent? Tu piques une crise? C'est-tu par amour des autres, ça? C'est par l'amour pour toi? C'est-tu quelque chose que tu peux vraiment dire? C'est la faute de l'autre. Ou c'est la situation qui est trop difficile. On peut-tu vraiment dire ça? On peut-tu vraiment se le permettre? Ou il faut qu'on avoue au fond du cœur que on a plein de colère. On a plein de soi. On s'occupe de nous d'abord. Je pense à Jésus sur la croix qui a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense à l'égoïsme et l'égotisme. J'ai été voir, c'est lequel dans le dictionnaire? Finalement, c'est les deux. Ils ont des sens différents. L'égoïsme, c'est se préoccuper de soi. Et l'égotisme, c'est le culte de soi. Hein? C'est comme un niveau, une coche de plus. Hein? Combien de fois que nous sommes le centre du monde? Puis mon opinion, c'est important. Mes sentiments, c'est ce qui est important. Mes pensées, mon bonheur, mon bien-être. Combien de fois on fait du tort en ne donnant pas aux autres, en ne servant pas l'autre en humilité, mais plutôt en restant centré sur nous. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On a lu un matin en Philippiens 2, lui qui s'est humilié lui-même, considérait les intérêts des autres. La pornographie. Si les statistiques sont vraies, il y en a plusieurs qui ont un problème avec ça ici. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut excuser? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut accepter et dire, c'est pas si grave? Homme, Dieu t'a donné une femme. Elle est à toi. Il t'ordonne de jouir de ta relation avec elle. Ceux qui ne sont pas mariés, vous êtes encore dans l'attente et dans l'espoir, mais le Seigneur vous demande de rester pur. On peut-tu se permettre de dire, c'est pas de ma faute, c'est trop facile, là je suis un addict, là je suis pas... Non, à un moment donné, là, non. Mets-toi dans la position de ta femme et pense. Pense au tort, aux blessures que tu infliges. confesse profondément, regrette profondément, crie au Seigneur, demande pardon. Et rien de mieux que d'avouer ses torts. J'en ai d'autres. J'ai trop de péchés. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Jerry vous a incité à écrire une lettre de pardon. Tu ne montrais personne, tu l'as détruit, le brûlé, le pactait à quatre parts, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je vous ai incité à faire? Gratte de fond. Lève tout. Toi sur ton linge sale. Avoue que c'est ça. Avoue que c'est de ta faute. Humilie-toi. Confesse. Pensez au verset qui revient, je pense, trois fois en hébreu. Une citation d'une psaume. Je ne sais pas si je l'ai à quelque part. Je suppose que je suis rendu. Oui, il est là. Aujourd'hui, Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui te le dit ce matin. Je ne suis qu'un porte-parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous avez des flashs de gens, de situations, d'attitudes, agis pas trop vite. Prends-les, va au fond. Regarde l'autre en face et considère ce que tu as fait subir à l'autre. Et ensuite, ouvre ta bouche et parle. Confesse. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prions. Oh Seigneur, nous avons besoin, grand besoin de restauration. Même si on est tes enfants, Seigneur, notre vie est si loin, si souvent on t'abandonne, on te délaisse. Il y en a besoin de restauration. Si souvent aussi, Seigneur, dans nos relations les unes avec les autres, on brise des choses par notre méchanceté, par notre dureté de cœur. Et on se trouve seul avec nos péchés. On a besoin de restauration entre nous, Seigneur. Donc, Seigneur, amène la restauration en nous par le pardon des fautes que les autres ont commises envers nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas considérer la confession dans les fautes qui sont commises envers nous, mais de pardonner correctement, entièrement, en renonçant à toute vengeance, à tout désir de voir l'autre souffrir. Et aussi, Seigneur, donne-nous la restauration par la confession franche de nos fautes qu'on a commises envers les autres. Donne-nous, Seigneur, de regretter, de vivre la tristesse et l'humiliation dans nos cœurs. Brise nos esprits, nos cœurs, Seigneur, pour notre péché. Enseigne-nous à nous humilier devant toi et de confesser honnêtement. C'est à nous de nous humilier, Seigneur. C'est à nous de répondre, mais c'est l'Esprit qui convainc. Donc, convainc-nous et amène la restauration. Je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.